Décrypte, le podcast de l'actualité numérique en Afrique avec Adil Abdelali.
Je suis ravi d'accueillir cette semaine sur CEOMAG le ministre du développement du numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications de l'État de Madagascar, Taïna Michel Razafi Dramalo. Bonjour et merci de nous accorder cet entretien.
Oui, bonsoir, Monsieur Adil, et ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cet entretien avec vous.
Alors, nous allons tenter de faire le point sur l'état d'avancement de la stratégie de transformation numérique de Madagascar, mais peut-être pourrions-nous commencer cet échange par cette ambition clairement affichée de Madagascar pour devenir un hub régional dans le secteur du numérique à l'échelle africaine. Où en est aujourd'hui cette ambition, Monsieur le Ministre ?
Alors, comme vous avez dit, nous affichons une ambition forte de devenir un hub régional dans les archipels des îles de l'océan Indien. On est géographiquement et géopolitiquement une passerelle entre l'Afrique et l'Asie. Comme vous le savez aussi, nous avons, par exemple, cette année, organisé les Assises de la transformation digitale en Afrique, qui montrent vraiment cette forte volonté et cette volonté politique de l'État dans le développement numérique, puisque on compose, on va dire ça, avec les contraintes que peuvent constituer d'être sur une île et de devoir composer justement avec ce contexte un peu globalisé, mondial, de concurrence mondiale et de concurrence, j'ai envie de dire, dans cette région-là, en matière de leadership. Et Madagascar joue aujourd'hui un rôle important parce que, comme vous avez, comme vous savez, au niveau de l'Afrique australe, on est justement en train de créer cet écosystème pour pouvoir développer cette économie numérique et surtout de devenir un moteur de développement et d'inclusion de la région océan Indien. Autrefois, Madagascar était connu surtout pour son écosystème, pour sa faune, sa flore endémique. Aujourd'hui, Madagascar est aussi connu pour sa forte dynamique autour de l'économie numérique et d'utiliser le numérique comme un vrai levier de développement. Donc, c'est bien le cas de le dire.
Aujourd'hui, la situation, on peut dire que la situation géographique de la grande île lui confère justement une position privilégiée avec une connectivité très ambitieuse d'ailleurs à l'échelle africaine. Ma question concerne justement ce positionnement géographique. Comment le pays tire-t-il parti de cet avantage ?
Alors aujourd'hui, on a une très très bonne connectivité, ça a été noté par tous les sites de benchmarking en Afrique, une des meilleures connexions en termes de qualité et de vitesse. Madagascar bénéficie de 3 câbles sous-marins qui sont les câbles Lion, Essi et Métis. On a un 4e câble qui est déjà physiquement connecté à Madagascar, qui est le câble Auto-Africa, qui est un des plus longs câbles du monde qui relie toute l'Afrique à l'Europe et à l'Asie. Cette connectivité, ce 4e câble Auto-Africa, va être activé dès le début de l'année prochaine, donc dans quelques mois, et qui va nous permettre encore plus justement de constituer de conforter cette position stratégique et privilégiée, parce qu'aujourd'hui, à Madagascar, l'économie numérique représente à peu près 30 000 emplois directs et à peu près 3%, on va dire, du PIB en termes d'économie numérique. On a l'ambition sur les 5 prochaines années d'augmenter à plus de 130 000 emplois directs ce bassin d'emploi lié au secteur de l'IT, donc que ce soit les BPO, que ce soit l'externalisation donc des services de manière générale pour les entreprises, donc majoritairement en Europe, mais également tout ce qui est développement informatique autour des ESN. Aujourd'hui, on a aussi les plus grandes sociétés informatiques et de call center à Madagascar installées. Donc, cette connectivité nous permet, forte connectivité nous permet d'être une destination privilégiée avec aussi un time zone de décalage du GMT plus 3 qui nous permet vraiment d'offrir un certain nombre de services à l'Europe. Et ça, Vous couplez cela à toutes les réformes des télécoms et notamment dans la libéralisation totale des télécoms qui nous permet aujourd'hui d'avoir des acteurs pleinement engagés sur tous les segments du marché, que ce soit sur la capacité internationale, sur le backbone national, sur du FTTX, donc communément connecter les entreprises, les bâtiments et les particuliers par de la fibre optique. Tout ça, maintenant, tout a été ouvert. Et on a des opérateurs internationaux qui sont installés. On a également lancé, par exemple, la 5G commerciale cette année. Donc, tout ceci, c'est vraiment, ça va nous permettre de pouvoir utiliser cet avantage de positionnement stratégique dans l'océan Indien. Et je rajouterai enfin que notre force, et je pense que c'est peut-être également l'avantage d'un certain nombre de pays en Afrique, c'est de sa population. À Madagascar, nous avons plus de 65% de la population qui ont moins de 25 ans. Et donc, avec cette forte jeunesse malgache et africaine, nous misons beaucoup sur cette jeunesse dans l'éducation, dans la formation, pour proposer justement un vivier de compétences pour le secteur de l'IT.
Justement, l'État de Madagascar est surtout reconnu aujourd'hui pour être une destination privilégiée de l'offshoring, des services informatiques d'une manière générale. Et dans ce domaine, vous devez aussi composer avec une concurrence venant d'autres destinations africaines. Je pense notamment au Maroc, pays dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui pour cet entretien, mais il n'y a pas que le Maroc, il y a aussi, également d'autres destinations. Justement, dans ce sens, quels sont peut-être les atouts de votre pays dans ce domaine et pour se démarquer peut-être par rapport à la concurrence à l'échelle africaine?
Alors, c'est une très bonne question. Nous travaillons beaucoup avec Maurice, parce que vous le savez, Maurice est une petite île dans l'océan Indien qui est à peine 1 heure de vol de Madagascar, mais qui a effectivement toutes les infrastructures en termes d'IT, mais qui manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée. D'ailleurs, il y a un certain nombre de Malgaches qui partent à Maurice pour constituer finalement une ressource à vivier de compétences pour Maurice. Et donc, il y a beaucoup de potentiel, mais c'est finalement Madagascar qui devient un vivier de compétences et de ressources pour des îles voisines. Donc, on parlait tout à l'heure de Maurice, mais c'est également le cas pour la Réunion, pour la France également. Donc, il y a une vraie, je dirais, expatriation des Malgaches dans le monde, et en particulier dans les marchés francophones. Le cas du Maroc est un cas très particulier pour Madagascar, puisqu'on a, on va dire, une même dynamique. On travaille beaucoup aussi bien avec le régulateur des télécoms du Maroc. On a signé un partenariat très fort avec le Maroc. On travaille avec l'Agence du développement numérique du Maroc. On travaille avec les ministères, un certain nombre, 2 ou 3 ministères au Maroc pour justement une collaboration sud-sud, parce qu'il se trouve que le Maroc est un des pays les plus avancés dans le monde francophone, on va dire ça comme ça, en termes de régulation, en termes de textes réglementaires et d'utilisation de l'IT comme un levier de développement. Et on a constitué un partenariat fort avec le Maroc, s'agissant des jumelages qui peuvent être faits entre mon ministère et les ministères qui sont également en charge de la transformation des réformes administratives. Maintenant, encore une fois, l'avantage de Madagascar, on a aujourd'hui quasiment 29 millions de population. On a développé un plan stratégique du numérique qui porte sur les 5 prochaines années, 2023-2028. Le président de la République, Son Excellence Monsieur Andrade, vient d'être réélu il y a quelques jours. Il y a d'ailleurs son investiture officielle qui va se passer fin de cette semaine. Et donc, on va dérouler ce plan stratégique du numérique qui repose beaucoup sur le capital humain, qui est encore une fois une vraie force pour Madagascar. On va développer tout ça, parce qu'on a des partenaires avec le groupe de la Banque mondiale, par exemple, qui a misé beaucoup sur l'entrepreneuriat numérique, qui a misé beaucoup sur la formation en digital skills, et avec IFC, qui est le groupe de la Banque mondiale, qui est un projet pilote, qui vont former, donc on va former avec le groupe de la Banque mondiale 3 000 étudiants supplémentaires par an au sein de l'Institut national de la digitalisation. Donc on met vraiment en avant cette capacité de pouvoir produire des techniciens, des ingénieurs qualifiés, pour permettre d'abord de couvrir nos besoins locaux, mais également les besoins du continent africain, des îles de l'océan Indien et d'autres destinations, hein. Je parlais tout à l'heure de la France, le Canada, les États-Unis, parce que les talents sont là et les offres de formation commencent à vraiment se développer. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire les avantages par rapport à d'autres destinations, c'est cette forte jeunesse malgache qui va nous permettre de pouvoir compter sur des idées nouvelles également, parce qu'on a dans ce plan stratégique du numérique tout un pan de mesures s'agissant des startups qui aujourd'hui commencent à s'exporter. On a quelques pépites à Madagascar dans l'enseignement technique, qui maintenant s'exporte, et je pense à l'entreprise Saina, qui s'exporte en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et d'autres pays au Cameroun. On a une start-up qui développe des ordinateurs tout en un sur les énergies renouvelables et l'énergie solaire qui s'exporte également, qui fabrique des ordinateurs à Madagascar et qui l'exporte en Afrique. On a quelques pépites comme ça sur les start-up, l'entrepreneuriat numérique. Et donc l'État accompagne toutes ces initiatives. Et encore une fois, ce sont des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qui développent toutes ces solutions. Donc notre première ressource au final, c'est notre capital humain. Maintenant, on a mis, comme je l'ai dit en introduction, toutes les réformes nécessaires réglementaires sur les télécoms pour une ouverture totale du marché, sur tout ce qui est texte réglementaire s'agissant, par exemple, de la protection des données. On vient d'adopter en Conseil des ministres la CMIL, qui est la Commission malgache pour l'informatique et liberté, donc qui s'occupe de toute la protection des données personnelles à Madagascar. Et comme on travaille beaucoup dans les BPO et dans les ESN, ils nous ont demandé clairement de pouvoir avoir des accords sur la protection des données personnelles. Je parle du CIRT qui a été mis en place, qui est l'antenne, l'unité qui s'occupe de la cybersécurité. On a mis en place l'unité de gouvernance digitale qui s'occupe de la mise en place de l'e-gouvernance. On a mis en place le CNESI, qui est le Centre national d'état civil et de l'identité, qui va permettre de mettre en place l'identifiant unique avec tout ce qui est enrôlement biométrique, etc. Donc, en fait, les bases, les fondamentaux, pardon, sont là. Maintenant, on travaille beaucoup avec les opérateurs privés et cette jeunesse pour cette formation, pour devenir vraiment un avantage compétitif pour Madagascar.
Vous avez commencé à répondre à ma dernière question lorsque vous avez évoqué effectivement cette jeunesse malgache, ce capital humain qui est en somme la principale richesse du pays et du continent d'une manière générale. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette jeunesse se projette dans l'univers des startups pour se développer, pour innover, pour entreprendre. Et aujourd'hui, d'une manière générale, à l'échelle mondiale, on sait que l'économie est façonné par les startups. C'est le cas également sur le continent africain. Quelles sont concrètement les mesures ou pour vous les leviers indispensables au développement d'un écosystème entrepreneurial innovant, performant à l'échelle africaine, en prenant en exemple bien évidemment l'État de Madagascar?
Alors c'est une vraie bonne question parce que en Afrique, de manière générale, quand on voit les startups qui réussissent en Europe ou en Asie ou aux États-Unis, on a l'impression que ce sont des modèles complètement différents et qui ne peuvent pas fonctionner en Afrique pour plein de contraintes énergétiques tout d'abord, contraintes réglementaires comme je disais tout à l'heure, contraintes en termes d'infrastructures, des coûts de connectivité, de connexion. Et tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes, on ne peut pas avoir un écosystème de start-up, de l'économie numérique qui peut se développer. Un certain nombre de pays africains ont commencé à faire ces réformes, Madagascar en fait partie. Aujourd'hui, les infrastructures commencent à devenir une commodity comme n'importe quelle autre commodity. Les textes réglementaires, et notamment, là on est en train de plancher sur un Startup Act, justement pour favoriser l'économie numérique, parce qu'on se retrouve aussi dans une administration où on considère les startups comme n'importe quelle entreprise, alors qu'ils doivent être agiles, alors qu'ils doivent pouvoir adapter leur stratégie par rapport au marché, que ce soit local ou africaine, qu'ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes, on va dire, en termes de besoins de financement, qu'il faut faciliter leur investissement, qu'il faut protéger également les talents, qu'il faut essayer de trouver un modèle fiscal qui permette aux startups, peut-être, de pouvoir se développer pendant 2, 3 ans, et on sait que les deux premières années sont très critiques pour les startups, et qu'ensuite, une fois qu'ils ont réussi à passer ces étapes de 2 à 3 ans, ils peuvent se développer. Et à côté de ça, il y a toute la partie financement. Aujourd'hui, par exemple, à Madagascar, et c'est pour ça que je parlais de Startup Act, il n'y a pas de texte réglementaire qui, je dirais, réglemente les accès au financement. Donc, on a un certain nombre maintenant de business angels, de venture capitalistes, de fonds de financement et d'investissement qui injectent de l'argent dans ces startups-là, mais, et aussi beaucoup de love money, hein, mais rien ne cadre de ces initiatives. Donc, notre but avec ce Startup Act, c'est de faciliter ces échanges, de faciliter le financement de ces entreprises, de faciliter le recrutement, de faciliter les contrats précaires parfois et qui se font de manière non légale, j'ai envie de dire, mais surtout non déclarée, de faciliter bah, justement le recrutement de certaines compétences et de pouvoir être aidé par l'État. Dans le plan stratégique du numérique qu'on a développé pour les 5 prochaines années, donc on a cette partie-là qui vraiment insiste sur le fait que les startups, et aujourd'hui on en a facilement une bonne vingtaine à Madagascar qui se sont exportées sur le continent africain, mais qui nous disent de changer un peu la donne, de changer de paradigme, parce qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des sociétés traditionnelles. Ils ne font pas de l'export, ils ne font pas de l'import, ils ne font pas des services de manière traditionnelle. Et donc l'État a mis du temps pour comprendre ce changement de paradigme. En tout cas, aujourd'hui, les textes réglementaires sont là, les fondamentaux sont là, les infras sont là. On est en train de pousser fort sur la partie formation. Et je pense qu'à Madagascar comme en Afrique, de manière générale, on a maintenant un écosystème numérique qui commence à bien se développer. Et puis, je parlais tout à l'heure qu'on ne peut pas parler digital sans énergie. On a un projet de la Banque mondiale qui a démarré il y a 2, 3 mois de 400 millions de dollars qui justement combine le problème de l'accès à l'énergie et le problème de l'accès à la connectivité. Et ce projet-là va nous permettre notamment de mettre de la connectivité là où les opérateurs traditionnels ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas forcément le marché, de permettre de financer un certain nombre d'initiatives, et notamment de vulgarisation et de démocratisation des usages, qui est un gros problème en Afrique. Aujourd'hui, à Madagascar, il y a une dizaine d'années, on était à même pas 200 000 personnes connectées sur Internet, 10-15 ans. Aujourd'hui, on a 6 millions de personnes. Donc, vous avez là une augmentation exponentielle des usages. On est à 23%, qui est encore en dessous de la moyenne régionale, mais avec des projets comme celui que je viens de vous expliquer là, on met de l'énergie. On distribue l'énergie dans des villages où il n'y a pas de l'énergie et on utilise cette énergie pour connecter les écoles, pour connecter les centres de santé, pour connecter les centres de sécurité, s'agissant des gendarmes, etc. Et ça va permettre finalement, autour de ces points, une nouvelle économie. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on a un autre problème de paiement de manière générale en Afrique. C'est que un taux de bancarisation qui reste assez faible, moins de 20% pour le cas de Madagascar, mais je pense que c'est la même chose pour les régions, toutes les régions d'Afrique. Et on a développé sur les 5 dernières années une utilisation exponentielle de la mobile money. Et avec ça, avec des technologies de USSD, SMS, on va pouvoir utiliser ces moyens de paiement dans les zones reculées, dans les zones enclavées. Maintenant, avec ce projet-là de mettre et l'énergie et la connectivité ensemble, on va pouvoir accélérer la transformation digitale du pays. Et ça, on le fait aussi pour ces startups-là, parce que beaucoup de startups nous demandent, par exemple, d'ouvrir le marché du SSD, parce qu'aujourd'hui, on va dire, les opérateurs télécoms traditionnels qui travaillent là-dessus, on va travailler sur un texte qui va permettre d'utiliser de manière interopérable les USSD SMS pour permettre une inclusion financière. Et ça aussi, c'est très important. Pour un dernier exemple là-dessus, sur l'inclusion financière, on vient de lancer la Banque Postale, donc qui va s'occuper de toute la partie microfinance et de l'émission de monnaie électronique. On a eu l'agrément au mois de septembre-octobre. On est en train de développer à l'échelle du pays l'utilisation donc de la Poste comme banque postale. Ça aussi, ça va aider les startups à utiliser un cadre réglementaire simple s'agissant de l'utilisation des moyens de paiement électronique. Donc, tout ceci tourne encore une fois sur un certain nombre de leviers de développement. Il y a le capital humain, il y a les infras, il y a le texte réglementaire, et ensuite on pousse à fond l'écosystème numérique, puisqu'on est en train de travailler là-dessus sur les 5 prochaines années.
Bien, bien, écoutez, nous allons conclure sur cette dernière réflexion pleine d'optimisme. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation, à toutes nos questions, et je vous dis à bientôt sur Sayumag.
À bientôt, Adil.